Sur Radio Prévert, vous le savez, chaque début d'année, l'exercice auquel nous soumettons les élus du territoire, c'est de faire avec nous le bilan de l'année écoulée. Et celui qui se prête à cet exercice aujourd'hui, c'est Laurent Hubert. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un des deux conseillers départementaux du canton de la Flèche. Merci d'être avec nous. On aura l'occasion d'avoir aussi votre binôme, Madame Jugal-Aloyer, dans un autre moment sur cette antenne. Vous l'avez promis, vous serez avec nous sur Radio Prévert à des occasions régulières. C'était le vœu que vous aviez formulé il y a quelque temps. Ma mémoire m'est fidèle, vous n'avez pas oublié non plus, je suppose.
Absolument.
Alors, en ce début d'année, toute l'équipe de Radio Prévert vous souhaite, bien entendu, une belle année. Et à vous, à votre binôme, et puis, bien sûr, à tout le canton de la Flèche. Et puis, comme on l'a dit, le jeu, c'est aussi de voir dans le rétroviseur pour voir comment 2022, vous l'avez vécu dans le canton.
Bon, tout d'abord, je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour souhaiter une bonne année, plus exactement 2023, à tous les auditeurs, et puis au-delà de ça, à Radio Prévert également.
Merci.
Je souhaite que cette année soit, je dirais, une année qui puisse nous permettre de retrouver un peu de sérénité. Je crois qu'on en a bien besoin. Pour 2022, une année difficile. Une année difficile, clairement. On a eu un temps électoral, l'élection présidentielle et puis suivi de l'élection législative. Et moi, j'ai été marqué par la progression de l'extrême droite en particulier. C'est quelque chose qui me touche et j'ai un peu de mal à l'accepter, à le comprendre et à l'accepter. Si je suis tout à fait sincère, j'ai effectivement des difficultés à comprendre à la fois le contexte, même si je ne nie pas les difficultés, et puis les conclusions que les gens tirent. C'est vraiment ce qui m'a le plus touché en 2022.
Vous dites les conclusions que les gens tirent, c'est-à-dire que de temps en temps, vous avez des échanges avec certaines personnes sur ce sujet ou
C'est difficile, mais on sent bien que les gens, effectivement, assument aujourd'hui clairement des positions. Après, je ne suis pas sûr qu'ils fassent vraiment le bon diagnostic. Je ne nie pas encore une fois les difficultés. Après, on est en France, on a la chance de vivre en France, et je crois que les gens ne se rendent pas compte de cette chance et qu'ils jettent facilement les fondamentaux au panier, alors que même si, encore une fois, il y a des difficultés et elles sont importantes, mais pour voyager de temps en temps, je peux mesurer quand même le privilège qu'on a à vivre en France. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de gens qui, globalement, vivent plutôt pas si mal, vont tirer un trait sur ces fondamentaux et penser que des aventuriers qui vont brandir des drapeaux vont trouver des solutions à des problèmes qui sont réels. Je crois que c'est effectivement des aventuriers et j'ai pas tellement envie de les voir à l'épreuve.
Et tout ça, ça révèle sûrement quelque chose de l'état du monde, hein, parce que ce que vous décrivez là n'est pas consubstantiel qu'à la France.
Bien sûr, on le voit bien à travers la situation internationale aujourd'hui. J'aurais dû d'ailleurs commencer par là, que c'est mes voeux de bonne année privilégient d'abord le retour de la paix, rien qu'en Europe, mais pas seulement en Europe. On a de par le monde des nationalismes exacerbés, des des conflits qui sont incroyables. Je regardais quand même, il y a 3 jours, un reportage à la télévision sur la guerre en Ukraine. Des gens sur ce qu'on appelle la ligne zéro qui sont dans des tranchées. On revient 100 ans en arrière. On avait dit, c'était l'horreur, c'est pas possible. Et là, aujourd'hui, on retrouve des tranchées. Moi, je trouve ça incroyable. Alors, bien sûr, la guerre, elle est légitime quand il n'y a plus d'autre solution. Mais quel gâchis! Quel gâchis que l'homme, de façon générale, ne soit pas capable de faire l'analyse de ce qui s'est passé dans l'histoire et n'ait pas l'intelligence de pouvoir éviter ces horreurs, c'est quand même un vrai constat d'échec.
Pour que tous se mobilisent pour essayer de faire notre examen de conscience de façon collective aussi, c'est ce que ça dit, ce que vous nous déclarez ce matin, Laurent Hubert.
Je pense qu'effectivement, collectivement, et je m'inscris évidemment dans cette approche, collectivement, faut qu'on s'interroge sur comment on en est arrivé là, d'une part, et puis ensuite, qu'est-ce qu'on veut. Alors, dans notre situation, on a une chance énorme, on ne s'en rend pas compte non plus, c'est l'Europe, parce que aujourd'hui on voit bien qu'elle fait front et qu'elle essaye de maintenir ses fondamentaux, de venir en aide à l'Ukraine, d'essayer de faire face à justement cette intransigeance et ces nationalismes exacerbés. Maintenant, au-delà de ça, c'est difficile parce que on voit bien qu'une partie de la classe politique n'est plus audible par les gens. Et ça, c'est vraiment mon inquiétude pour demain. Moi, je pense pas qu'on puisse trouver des solutions dans des extrêmes de ce point de vue-là et le dialogue me paraît encore et la démocratie, parce que au-delà de tout ce qu'on dit, c'est la démocratie qui est menacée aujourd'hui. Je pense que le dialogue et la démocratie sont les seules voies possibles pour le bien vivre ensemble.
Tout ce que vous dites se retrouve finalement dans ce qu'on peut avoir dans le miroir, les États-Unis, le Brésil, et puis d'autres exemples, ils sont nombreux, mais la démocratie vacille dans le monde, et ça, c'est des faits et non une opinion.
Je crois que c'est le combat qui nous attend dans les mois et années à venir, mais malheureusement, on cite les États-Unis, on a vu le Capitole, le Brésil encore récemment, mais ça nous guette chez nous. Ça nous guette chez nous, et y compris sur des pratiques dont on pressent qu'elles peuvent effectivement poser souci. Ne pas reconnaître des résultats d'élection, ne remettre en cause les légitimités. Mettre en doute la parole des exécutifs. À un moment, on est à la limite du respect de la Constitution, toujours. Et on peut y craindre le moment où on sera passé de l'autre côté de la ligne.
On poursuivra sur ce registre-là. Sur Radio Prévert, tant il est fondamental, puisque vous l'évoquez, c'est justement vos mots, les fondamentaux. Il ne faut surtout pas qu'on perde de vue les fondamentaux de l'état de droit, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Absolument. En fait. Voilà. Le canton de la Flèche en 2022, au-delà voilà, de ce qui fonde justement, si on est dans un canton où les gens peuvent voter pour vous élire et que les résultats, vous parliez de respect des résultats des votes, c'est justement parce qu'on est dans un état de droit et que vous, vos adversaires lors de de ce scrutin que, au cours duquel vous avez été élu, bah, les gens ont joué le jeu, donc tout ça. Et,
oui, on a encore
de la marge.
Un peu de marge, mais le niveau d'alerte est quand même là.
D'accord.
Voilà, mais effectivement, localement, on a ce respect et je dirais cet espace démocratique. Mmh. Maintenant, il faut que ça dure.
Et 2022, autrement, outre l'aspect, on va dire, respect des institutions, respect du régime démocratique, dans le canton de la Flèche, Laurent Hubert, quels ont été les autres marqueurs? Je sais que socialement, il y a un dossier, je pense que vous allez me le citer, mais bon, je le garde en réserve aussi.
Je l'ai là. Si vous pouvez parler de territoire zéro chômeur de longue durée.
Tout à fait.
Eh ben voilà. C'était certainement ce par quoi je voulais commencer. On a une initiative sur la ville de La Flèche qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée. Et on en est aujourd'hui à la volonté de créer une entreprise à but social par cette association. La difficulté, et elle est importante, c'est que pour ce faire, il faut que le conseil départemental apporte sa pierre financière à l'édifice. Donc aujourd'hui, on se heurte à un refus du conseil départemental et en particulier de son président, alors qui a un certain nombre d'arguments, hein, je les entends. Mais ça prive clairement un certain nombre de personnes qui avaient un peu d'espoir avec cette entreprise à but social de pouvoir s'inscrire réellement et de façon concrète dans le projet. Donc on est un peu dépité de ce point de vue-là parce que on parle là de gens qui sont très très éloignés de l'emploi parce qu'ils ont des parcours qui les ont emmenés assez loin et que l'évidence c'est que pour les remettre dans le circuit, ben, il faut qu'il y ait un accompagnement qui soit fort. Et alors une des critiques du président du conseil départemental c'est que ces gens sont recrutés en CDI et qu'il craint que le fait même du CDI les tienne, je dirais, chevillés à cette entreprise à but social et qu'ils ne puissent pas, le cas échéant, aller sur le marché classique de l'emploi. C'est vrai pour un certain nombre d'entre eux qui sont tellement éloignés de l'emploi que probablement ils resteront dans cette entreprise. Mais c'est pas vrai pour tous. Et que je pense que pour certains, ça peut être un sas important, mais que on peut imaginer, et nous on a des besoins sur le canton et sur le pays fléchois, on a des besoins, des entreprises qui arrivent, donc il y aura des appels d'air par rapport à l'emploi, et je pense que d'autres personnes auront cette capacité de quitter, entre guillemets, le nid de l'entreprise à but social et aller sur le marché classique de l'emploi, mais on ne peut pas se priver de ce sas. Le deuxième argument du président du conseil départemental, c'est de dire nous, on fait déjà le travail au niveau du RSA et que y a pas de raison que d'autres le fassent. Bon, moi, ce que je regrette, c'est que l'initiative locale a le mérite d'exister, qu'elle a besoin d'un relais. Alors, un relais qui, malgré tout, je dirais limité, hein, parce qu'on parle de sommes inférieures à 100 000 euros quand même, hein, pour 90 personnes en retour dans l'emploi. Donc ça vaut le coup quand même de s'investir à ce niveau-là. Et bon, on est vraiment déçus de cette prise de position, parce que sans cette signature du conseil départemental, le projet risque de ne pas pouvoir aller plus loin.
Et est-ce que vous diriez, comme le chef de file du groupe des élus de gauche, progressiste et écologique, au conseil écologiste, au conseil départemental. Christophe Counil, que c'est parce que vous êtes des élus de gauche dans le canton de la Flèche que ce dossier est bloqué. Parce qu'on l'a eu sur Radio Prévert et c'est une des raisons qu'il a avancé.
J'espère que non. Encore une fois, c'est une initiative locale et moi j'ai pu interpeller justement le président qui se faisait l'écho au moment de l'inauguration de la voie verte BC Montval et qui justement mettait en avant cette initiative locale du département et demandait le relais de la région d'une façon générale par rapport aux initiatives locales et je souhaitais qu'il puisse avoir la même ouverture quand lui était sollicité par une initiative locale, même si cette initiative locale émane d'un canton qui n'est pas issu de la majorité départementale. J'espère que non, mais effectivement, Christophe Counil a beaucoup d'expérience. Peut-être qu'il est moins naïf que moi.
Mais en l'occurrence, je mesure à travers ce que vous me dites là par rapport à ce dossier, si vous l'avez classé aussi haut dans le bilan que vous faites de 2022, c'est dire qu'il a une certaine importance à vos yeux. Est-ce que vous vous dites que les dés sont jetés ou alors loin de là, vous vous dites qu'il y a encore des marges de manœuvre et qu'il y a nécessité de se mobiliser pour le voir aboutir?
Encore une fois, le dialogue c'est quelque chose que je veux pousser jusqu'au bout. Après, pour dialoguer, il faut être deux. Et on se heurte là à des convictions fortes, et du moins qui étaient avancées, qui confinent un peu au dogme. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais moi, je voulais inviter le président du conseil départemental à venir voir la pièce de théâtre Les Invisibles, qui a été produite notamment au cinéma Le Kid il n'y a pas encore si longtemps, et de voir sur scène des gens qui ne s'y imaginaient pas se produire en public il y a quelques mois, et pouvoir dire aujourd'hui, quand je vais quelque part, eh ben je peux relever la tête. C'est difficile de ne pas être ému par cette prestation et de ne pas faire le lien avec la main tendue que constitue aujourd'hui Territoire Zéro Chômeur de Longue Durée. Franchement, à un moment, c'est une question tout simplement d'humanité et de, je dirais, tout simplement de justice, justice sociale, tout simplement. Donc, après, moi, je ne dis pas que le département fait mal les choses. Je dis juste que là, il y a une initiative supplémentaire qui nous permettrait certainement d'aller chercher des personnes encore plus éloignées que ce qu'on peut avoir d'une façon plus classique. Et donc, on va essayer de jouer le dialogue jusqu'au bout, mais c'est vrai que c'est difficile. Alors après, on se heurte aussi à un taux de 15% de participation du conseil départemental qui est peut-être un petit peu rigide. Si on avait la possibilité d'avoir, et là je m'adresse plus à l'État, un taux qui soit revu un peu à la baisse et une participation un peu diminuée, peut-être à 10%, peut-être que ça nous permettrait de réinitier le dialogue avec le conseil départemental de ce point de vue-là.
Donc, vous allez prendre langue avec Madame la sous-préfète ou vous l'avez
ça
déjà fait?
Ça a déjà été dit, notamment à Monsieur le Préfet. On a reçu, on était reçu le groupe conseil départemental de la minorité par le préfet. On a pu en parler à ce moment-là. Donc, maintenant, c'est vrai que ça se passe au niveau ministériel, ce genre de choses, donc c'est un petit peu plus compliqué. Mais on voit bien qu'il y a un certain nombre de points de blocage bon, dans quelques départements. Et puis il y a d'autres départements, y compris avec des majorités de droite, qui jouent le jeu de cette affaire-là. Donc on voit bien que c'est aussi des convictions personnelles.
Donc affaire à suivre, vous l'avez dit, les choses sont compliquées, mais vous n'abandonnez pas.
Absolument.
Laurent Hubert, conseiller départemental du canton de la Flèche, avec nous sur Radio Prévert en ce début d'année pour faire le bilan de 2022. On a parlé de l'état de droit qui vacille. On a commencé par là, on a embrayé avec le projet de territoire zéro chômeur de longue durée, la Flèche, avec l'entreprise à but d'emploi Alternataf, donc qui demande qu'à aller se concrétiser. Et quel troisième sujet vous avez retenu au titre de 2022 ?
Eh bien, un troisième sujet qui est complètement d'actualité, c'est nos collèges sur la Flèche. Alors, on a eu une bonne nouvelle avec la mise en route et l'inauguration du service de restauration du Vieux Chêne. Donc ça, c'était, je dirais, un bon point, parce qu'on quittait une restauration où les enfants étaient servis avec un système de self beaucoup plus adapté, et puis des locaux complètement neufs, donc vraiment des bonnes conditions pour la restauration du Vieux Chêne. Le point plus délicat, c'est le Petit Versailles. Petit Versailles avec des travaux qui sont, on va dire, envisagés, qui avaient été largement sous-estimés dans une première enveloppe. Là, aujourd'hui, on nous promet une enveloppe beaucoup plus conséquente par rapport à des enjeux supérieurs, notamment de rénovation thermique, parce que on a notamment un bâtiment qui n'est pas isolé, mais ce qu'il faut savoir en plus, c'est qu'il est chauffé électriquement aujourd'hui, donc si vous mettez ça en rapport avec le coût de l'électricité, voilà. Donc il y a une urgence là. La difficulté, c'est que c'est une urgence qu'on nous laisse, je dirais, entrevoir depuis 10 ans, quoi. Donc il y a de l'exaspération des équipes de la communauté éducative du Petit Versailles, des parents d'élèves, et puis aussi des élèves. Il y a eu l'épisode où le chauffage est en plus tombé en panne. Bon, là, franchement, il y a pire qu'urgence, quoi. Donc, il faut vraiment que ce dossier puisse passer dans une phase de concrétisation. Aujourd'hui, les choses sont encore à l'étude, et vraiment, il faut qu'on arrive à embrayer et à annoncer un calendrier au plus vite. Alors bon, on s'exprime avec Michel Juguin-Laloyer sur le sujet, et bien relayé par notre groupe. Et le dialogue avec Monsieur Trifou, le président de la commission, est intéressant. Maintenant, on attend vraiment la concrétisation des choses, quoi. C'est vraiment le dossier prioritaire sur le canton pour le moment.
Et d'autant plus qu'avec ces températures qui deviennent enfin hivernales, le problème est d'autant plus d'acuité encore que
quelques semaines. Bien évidemment. L'actualité au niveau de l'énergie et des coûts de l'énergie, amène à penser que ce sera une bonne affaire, y compris pour les finances du conseil départemental, que de régler ce point noir. Aujourd'hui, c'est clairement un gouffre financier. Et en plus, il n'y a pas le confort attendu, quoi. Donc vraiment, il y a une urgence à ce que ce soit. Bon, j'ai l'impression que l'urgence est enfin aujourd'hui admise. Maintenant, il faut que les choses aillent vite.
Et puis, pour se focaliser sur ce problème de la hausse des prix de l'énergie, donc l'électricité en ce qui concerne les collèges et puis bah, le chauffage finalement, quand vous parlez de bâtiments qui n'est pas du tout isolé, c'est-à-dire que les établissements sont confrontés à une hausse des factures et est-ce que le département va prendre sur lui d'abonder?
Oui, oui, ça c'est quelque chose qui est admis. L'idée que les collèges soient soutenus s'il y a effectivement un dérapage de la facture énergétique. Après, le risque, c'est que eux-mêmes se brident un petit peu sur d'autres actions pour essayer de pas trop être dans le rouge. Voilà, donc c'est un petit peu plus ça. Bon, le département nous a assuré que, a priori, ils allaient rassurer les intendants et les principaux de collège par rapport aux enveloppes, je dirais, pédagogiques. Mais le risque, il est un petit peu là. Mais bon, oui, j'ai tendance à croire que le département sera là pour soutenir les finances des collèges sur le fonctionnement.
Ouais, d'autant plus que de façon générale, les sociétés du genre Total Energy et autres se disent finalement, bah oui, ouais, il faut qu'on revoie un tout petit peu parce que là, oui, il y a mal donne, avoir des hausses aussi spectaculaires, ce n'est pas tenable.
Oui, mais ça passe par des travaux, ça passe par des investissements pour limiter la consommation. Et puis effectivement, je pense qu'à un moment, il faudra aussi s'interroger sur comment on achète l'énergie. Un certain nombre de choses qui ont été engagées par le département sur des contractualisations. Certains collèges n'y avaient pas adhéré dans un premier temps. Mais ça va au-delà de ça. Je pense que aujourd'hui, est-ce que un groupement d'achat peut s'envisager? Et alors pas forcément seulement pour le département, mais est-ce qu'il y a d'autres collectivités qui pourraient éventuellement y participer? Est-ce que il y a lieu de réfléchir par ailleurs à un syndicat d'énergie? Là, on parle plutôt de la production. Voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent autour de l'énergie. Ça fait un moment qu'avec justement mon collègue Christophe Kounil, on porte ça au niveau du département. Jusqu'à maintenant, on avait été un petit peu renvoyé dans nos buts. Mais l'actualité fait que les questions qu'on posait il y a quelques mois, il y a quelques années, elles finissent par être aujourd'hui à l'ordre du jour. Et je pense que le département ne pourra pas faire l'économie de la réflexion. Bon, on nous a promis, Frédéric Bouchef nous a promis une réunion ad hoc sur l'énergie. On est preneur parce qu'effectivement, aujourd'hui, c'est le département avec les collèges qui est impacté, pas qu'avec les collèges d'ailleurs, mais c'est aussi toutes les collectivités locales, ce sont les entreprises. On voit les difficultés des boulangeries aujourd'hui. Donc il y a une vraie question, comment on fait pour que ces coûts soient effectivement contenus, tout simplement, parce qu'il en va non seulement des finances des collectivités, mais aussi de la vie économique et de l'emploi aussi demain. Quoi.
Et je suppose que le prochain sujet dont vous allez nous parler, Laurent Hubert, va tenir justement dans ce registre-là d'augmentation des coûts et l'inflation, puisque les habitants du canton de la Flèche, je ne sais pas si vous avez trouvé une martingale, vous avez quelque chose de particulier qui vous permet de vous exonérer de l'ambiance générale où il y a une hausse des coûts, si vous l'avez, vous allez partager ça. Mais j'imagine que les discussions que vous avez avec les habitants du canton tournent autour de ça, l'inflation, son impact sur la vie au quotidien.
C'est une évidence. Hein. Les gens aujourd'hui mesurent tous les jours la hausse des coûts. Bien sûr sur l'énergie, sur le carburant, mais pas que, hein, y compris sur les produits alimentaires. Donc, y a une vraie difficulté. Une vraie difficulté. Alors, la question, c'est est-ce qu'elle va être durable ou est-ce qu'on va revenir à des niveaux plus acceptables. Bon, moi, j'avoue que je ne peux pas lire dans le marc de café. J'ai l'impression que on a une inflation qui va rester à 5% au moins pour la première partie de l'année 2023. On verra en deuxième partie, la difficulté, c'est que ça risque d'attaquer nos fondamentaux là aussi. Moi, je vois très bien ce qui se passe sur Vilaine. Je suis le maire, Vilaine sous Malicorne. On a vendu beaucoup de terrain, tant mieux. Ça va renvoyer à notre attractivité du village. Et puis, depuis les événements d'Ukraine et l'incertitude, et puis la hausse des coûts, la hausse des matériaux, la hausse des taux d'intérêt, les projets sont très ralentis. Et on voit bien que ça va avoir un impact sur notre vie économique d'une façon générale. Et j'ai peur que ça ait un impact aussi négatif sur l'emploi relativement rapidement. Alors ce que je constate, c'est qu'on a déployé une énergie phénoménale et on a bien fait de le faire pour, pendant la crise sanitaire du Covid, maintenir les entreprises et ne pas risquer des fermetures d'entreprises. Et aujourd'hui, cette nouvelle crise, due comme déclencheur à la guerre en Ukraine, mais peut-être pas que, et cette nouvelle crise risque effectivement de produire les mêmes effets. Et là, on n'a pas le sentiment qu'il y ait la même détermination pour vraiment venir en appui, notamment aux collectivités locales et qui sont très très impactées, notamment les villes et les centralités, et puis bien sûr les entreprises, quoi. Les entreprises artisanales, évidemment, commerciales, industrielles, mais aussi agricoles. La filière de l'arboriculture, et sur Vilaine, on est très très concernés, et très impactés par les coûts de l'énergie également. Donc, là, moi, je sens pas cette même urgence et ce même empressement pour venir en appui aux entreprises qui sont très très déstabilisées par le coup.
Et on peut même élargir le spectre pour les auditeurs qui ne le sauraient pas, mais bon, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui savent que vous êtes également vice-président de la communauté de communes du Pays Fléchois. Donc, au-delà de Vilaine, vous avez cette lecture-là du territoire, avec des exemples précis. Vous évoquez donc toutes ces filières d'activité, c'est-à-dire que c'est maintenant qu'il faut agir.
Moi, je pense que, encore une fois, on s'est félicité au moment du Covid d'avoir pu préserver le tissu économique. Aujourd'hui, on est dans la même équation. Il va falloir qu'il y ait des petits signaux pour que les porteurs de projets puissent à nouveau, retrouver de la confiance. C'est ça qui va être important. Alors, quand on parle de porteur de projet, c'est le particulier qui a un projet de construction de maison, mais c'est aussi l'entreprise qui se demande si elle doit investir dans telle ou telle partie, et c'est aussi la collectivité qui se demande si un investissement supplémentaire est bien utile, ça va pas générer trop de coûts de fonctionnement. Voilà, donc à partir du moment où les investissements sont ralentis, c'est les commandes des autres, d'autres entreprises qui sont impactées, et on peut s'interroger sur les carnets de commandes des entreprises dans les mois à venir. Moi, je suis un petit peu inquiet. Donc effectivement, pour tous les acteurs, aujourd'hui, on attend un peu des signaux et des gages pour pouvoir repartir de l'avant.
D'autant plus que vous le disiez, même pour vous, les collectivités, la situation est aussi difficile. On sait qu'en situation de crise, si économiquement les porteurs de projets, vous en parliez, ne peuvent pas assurer, vous êtes, allez, le dernier recours. Et là, même si vous êtes embêté.
Ben, clairement, l'investissement public est une donnée fondamentale de la situation économique. Et si les collectivités sont sous l'eau avec le fonctionnement, ben c'est l'investissement qui risque d'en partir. Et par voie de conséquence, les entreprises demain. Et puis au-delà de ça, un territoire qui n'arrive pas à investir est un territoire en danger. Donc il faut qu'on arrive à absolument, juguler le fonctionnement de façon à garder la possibilité de continuer à investir. Mais ça va être compliqué. Alors on peut éventuellement imaginer que pour une année ce soit un peu plus difficile, on l'a bien compris, mais il ne faut pas que ça dure, quoi. Il ne faut pas que ça dure, il faut vraiment qu'on retrouve du souffle.
Et sur cette embellie hein, que vous espérez, l'État doit jouer son rôle.
Alors, bien sûr, même si vous allez me dire qu'on se retourne très souvent vers l'État quand il y a une crise, après, au moment du Covid, l'État était là. Et je pense que c'est un bon investissement pour l'État que de pouvoir finalement donner... un coup de pouce aux entreprises parce que c'est autant de dépenses sociales qu'on s'évite pour la suite, quoi. Et je pense qu'aujourd'hui, un investissement de l'État qui permette aux porteurs de projets de retrouver du souffle, c'est aussi, des vrais encouragements pour la filière économique et presque des assurances de garder cette bonne dynamique d'emploi. Parce que le paradoxe de cette affaire-là, c'est qu'on a aujourd'hui une bonne dynamique d'emploi quand même. Et il faut que ça dure. Parce que si demain, les travaux publics ou le marché de la construction sont dans la difficulté, on va repartir, dans une situation d'emploi à la baisse. Et finalement, c'est des dépenses publiques, à la fois pour l'État, mais aussi pour les départements, notamment qui assument le RSA, qui seront en plus. Donc aujourd'hui, je pense que effectivement, engager des actions pour maintenir une situation économique favorable et une reprise de l'investissement, oui, je pense que ça serait une bonne chose. Même si on ne peut pas tout attendre de l'État, on a aussi notre travail à faire localement, bien évidemment, et de gestion des coûts et d'investissement aussi pour justement limiter ces coûts demain. On parle de la rénovation énergétique, elle est très importante parce que c'est aussi ça qui nous permet de réduire la facture de fonctionnement. Mais donc maintenant, on a notre travail à faire, mais effectivement, les gros signaux, ils viendront d'en haut.
Et puis vous, en tant que conseiller départemental, je le disais, vous êtes également vice-président de la communauté de communes et maire de Villennes-sous-Malicorne, de votre poste de conseiller départemental, c'est-à-dire que vous avez des échanges avec vos pairs, les élus des communes et ceux qui siègent à la communauté de communes, bien évidemment, pour essayer d'avoir des positions, on va dire... harmoniser, d'avoir une grille de lecture.
Oui, mais évidemment, on discute beaucoup. Très objectivement, j'attends moi le compte administratif de la commune de Villennes, mais je suis pas sûr que ce soit nos petites communes qui vont être le plus impactées. Ce qui va être fortement impacté, ce sont les villes moyennes, la ville de la Flèche par exemple, et puis les intercommunalités. Parce que forcément, quand vous avez beaucoup d'équipements, notamment à chauffer, c'est pour peu que les investissements d'isolation n'aient pas été encore complètement engagés, ça pèse terriblement. Hein. Et puis nous, on a quand même gardé une possibilité d'accès aux tarifs réglementés. que n'ont pas les grosses structures. Et là, bon, les marchés ont été quand même multipliés par 6-7. C'est insupportable. Donc, les enjeux demain, ils vont se situer au niveau des villes et au niveau de la communauté de communes, de retrouver des marges de manœuvre pour l'investissement.
Et ça, vous le disiez, c'est important, puisque après le Covid, ou alors pendant la crise du Covid, il y a beaucoup de gens qui se sont dit « tiens, je vais changer de vie » et qui ont privilégié justement nos territoires. Donc, s'il y a ralentissement sur nos territoires...
On a l'air de le mesurer quand même sur le pays fléchois, qui est un oasis avec Le Mans aujourd'hui, une partie de la communauté urbaine, où la population progresse légèrement et ne descend pas. Donc c'est aussi un indicateur. On voit bien, le pays fléchois aujourd'hui est une terre relativement attractive, et on a effectivement accueilli un certain nombre de personnes à la faveur du Covid. Mais faut que ça continue. Alors pas seulement pour ceux qui veulent changer de vie, mais tout simplement parce qu'il y a du travail demain, parce que effectivement la qualité de vie y est reconnue, parce que on a des services, parce que on a des possibilités pour les enfants, à la fois sportives, la culture, il y a tout un tas de choses qui s'y passent, même si on veut encore en faire plus. Mais une fois qu'on a dit ça, il faut qu'effectivement on puisse avoir des facilités de prise de décision par les porteurs de projets. C'est-à-dire que venir s'installer sur le pays fléchois, il y a des gens qui le souhaitent. Après, il faut qu'ils le puissent.
Puis porter un projet, parce que c'est ça aussi qui nous fait tenir, en disant « Ok, j'ai de l'espoir que voilà, on ne soit pas réduit qu'à cette situation de crise, hein, perlée, multiple, mais il y a une ouverture possible. »
Encore une fois, moi j'ai foi en l'avenir du canton de la Flèche et du pays fléchois. On le voit par les entreprises qui arrivent et qui nous laissent entrevoir de l'emploi comme on n'en a jamais eu sur le pays fléchois. Maintenant, il faudra qu'on soit en capacité aussi de mettre des personnes sur ces postes. Effectivement, il y a cet appel d'air. Maintenant, il faut que on ait aussi des capacités à ce que les gens puissent s'installer, construction de logements et avoir une dynamique de territoire qui puisse vraiment nous emmener sur une progression de la population. Ça, c'est important. C'est important d'avoir cette image dynamique. C'est aussi la validation de tout un travail depuis 30 ans de production de bâtiments blancs qui ont permis à des entreprises d'arriver. Et puis, une mission économique aujourd'hui qui est particulièrement efficace. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut que tout l'écosystème puisse s'organiser autour de ça. C'est pas suffisant de dire il y a des entreprises qui arrivent, encore faut-il pouvoir accueillir les employés et les attirer et faire en sorte que effectivement cette dynamique se transforme en cercle vertueux.
Ça, c'est très bien, faire en sorte que cette dynamique se transforme en cercle vertueux. Je vais retenir ça comme titre de votre intervention. Ça donne une tonalité heureuse et donner aussi le sens de l'impulsion, voilà, pour dire « Ok, il y a des difficultés, mais on bouge. »
Ben oui, je pense qu'il faut garder foi en l'avenir.
Merci beaucoup. Et puis, est-ce qu'il y a un dernier mot pour les auditeurs aujourd'hui, ceux du canton de la Flèche et au-delà du canton de la Flèche, tant pour introduire votre propos, vous avez placé le curseur très haut pour interpeller nos consciences par rapport au nécessaire maintien de cette flamme démocratique qui fonde nos sociétés, Laurent Hubert.
Le dernier mot, c'est simplement le souhait que les gens puissent vraiment retrouver le goût des autres, le goût de l'échange, dans le respect. Moi, je suis enseignant et maire, vous l'avez dit. Alors, même si ça se passe pas mal dans les endroits où j'enseigne et à Vilaine, je sens quand même monter, je dirais, l'agressivité, d'une façon générale. Et on a le sentiment que les gens ont du mal à se parler. Donc, je dirais vraiment qu'on arrive à retrouver le goût de l'échange, le goût des autres, tout simplement.
Eh bien, nous, on va y contribuer sur Radio Prévert et allez, organiser des temps d'échange où on imaginerait que vous répondiez à des gens, justement, qui, spontanément, n'osent pas vous arrêter dans la rue ou vous téléphoner lors de vos permanences, parce que vous organisez des permanences,
oui,
sur le territoire.
Tout à fait.
Parce qu'il y a des gens, peut-être, qui n'osent pas, alors qu'ils aimeraient avoir des réponses à leurs questions. Ils s'adressent peut-être à leur mère ou ils n'osent pas. Il y a de tout.
On est tout à fait ouvert au dialogue.
Merci beaucoup pour avoir accepté de venir comme vous le faites. À chaque fois que nous vous sollicitons, eh bien, on vous sollicitera encore pour entretenir le débat, parce que vous avez raison. Tant qu'on reste chacun dans nos coins, et puis voilà, en croyant qu'on détient la science infuse ou avoir toute la vérité pour nous, c'est là où il y a une alerte rouge qui devrait nous alerter tous ensemble.
Avec plaisir.
Laurent Hubert, conseiller départemental du canton de la Flèche, en binôme avec Michel Juguin-Laloyer. Il est également vice-président de la communauté de communes du Pays Fléchois et maire de Vilaine-sous-Malicorne. Il était l'invité de Radio Prévert. Merci encore une fois.